minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux, il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio.
Cube Radio. Jeudi 19 mai. Bienvenue à Cube Radio, j'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est encore frais ce matin, 8 degrés. Aujourd'hui, on attend de la pluie qui va commencer en avant-midi, maximum de 13. Et ça se réchauffe à partir de demain, 22 avec des averses. Samedi, on s'est calmé un petit peu les nerfs, on est rendu à 26 degrés. On parlait de 33 au début de la semaine, donc on risque d'avoir une excellente et très belle journée. Lundi aussi, ça s'annonce pas mal avec un peu de pluie pour la fin de semaine. Si vous êtes en train de planifier votre longue fin de semaine, parce que lundi, c'est congé, eh bien, sachez que ça va quand même être pas mal. Alexandre Morinville-Ouellet, bonjour.
Bon matin.
Grosse fin de semaine en perspective ou...
Ben oui, j'imagine. Lorsqu'il fait beau comme ça, on sort dehors, on profite des parcs montréalais. Ceux qui ont des cours vont peut-être, et une piscine vont peut-être en profiter aussi, même s'ils annoncent pas 33.
Il y a peut-être finalement des amis qui vont les appeler samedi pour aller se baigner dans la piscine. Ils vont se découvrir des amis qui avaient pas entendu, dont tu avais pas entendu parler depuis un bon moment. Regardons dans les nouvelles ce qui se passe aujourd'hui. La santé publique va faire le point sur cette variole du singe. On a surpris pas mal hier en apprenant qu'il y a 13 cas qui sont sous enquête à Montréal. La variole du singe est une maladie virale. Les symptômes, pour le moment, là, ça ressemble au début à de la fièvre, maux de tête, de dos, douleurs musculaires, ganglions qui sont enflés. Et après ça, on a des éruptions cutanées qui ressemblent à celles de la varicelle. Normalement, on en a dans certaines communautés en Afrique. Là, on dit qu'en Afrique de l'Ouest, je pense que c'est endémique, cette maladie-là. En Afrique de l'Ouest, ouais. Alors que ailleurs au pays, ailleurs en Europe notamment, c'est vraiment très rare. Par contre, on a vu des éclosions au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal. Il y a à peu près une cinquantaine de cas qui ont été soit confirmés ou soit qui sont des cas suspects. Pour le moment, ça semble surtout être des hommes de la communauté homosexuelle et bisexuelle et des femmes aussi qui seraient touchées. Diane Lamar hier était au TVA 22h. Elle nous expliquait qu'il fallait pas nécessairement trop s'en faire.
C'est auto-résolutif. Ce que ça veut dire, c'est que ça guérit par soi-même en général. Et dans le cas de la forme bénigne, en tout cas dans l'épidémie qu'il y avait eu en 2003 aux États-Unis, il y a eu 70 cas et il y a eu aucun décès. Ouais. Et ce n'est pas la variole traditionnelle. Mm-hmm. Il y a un risque quand même, là, même dans la forme bénigne, il y a 1% de létalité par rapport à la forme plus agressive qui, elle, peut aller jusqu'à 10% de mortalité. Ouais.
On va écouter ce que la santé publique va avoir à dire à ce sujet-là aujourd'hui. Sinon, on a eu les chiffres d'inflation pour le mois d'avril, on en parlait, on s'y attendait, on le voyait. Ça a augmenté 6,8% l'inflation en avril. On pensait ou on espérait avoir atteint un pic en mars, mais pas du tout. C'est le cinquième mois avec plus de 5% d'inflation. Puis on voit surtout que ça augmente où? Ben à l'épicerie avec les aliments, le fruits, légumes, viande, pain, pâtes, café et dans le transport. On l'a vu aussi avec le prix du gaz. Puis en même temps de tout ça, c'est la bourse qui en mange tout un coup. Hier, avec une baisse de 4% du S&P 500, les 500 plus grands indices aux États-Unis, la baisse à Toronto est quand même un petit peu plus faible. On est autour de 1%. On est aidé du côté du Canada, notamment à cause du pétrole. Et sinon, dans tout cet aspect économique-là, ben on continue à regarder des petits dossiers qui nous paraissent, Alex, des fois un peu, disons, anecdotiques, mais sur l'ensemble, on se dit, là, ce sont les livreurs de pizza. Pénurie dans ce dossier, dans ce domaine-là aussi.
Ouais, pénurie de main-d'œuvre qui s'enregistre partout. Puis pour les pizzerias, c'est vraiment une baisse de vente là, qui est enregistrée quand on n'a pas de livreur pour livrer les pizzas. Ben évidemment, on fait moins de ventes, surtout que depuis la fin de la pandémie, semble-t-il qu'une hausse de la demande là, qui est chiffrée aux États-Unis à peu près 6% des livraisons de pizza. Il y a plus de gens qui veulent se faire livrer une pizza. Semble-t-il qu'on est habitué de recevoir la nourriture à la maison.
Post-pandémie.
Post-pandémie. Ah ben. Et on dit qu'au Québec, ce sont les pizzerias qui ont été interrogées. On voit à peu près les mêmes chiffres ici. Mais ce qui freine surtout là la rétention d'employés, oui, évidemment, il y a une pénurie de main-d'œuvre généralisée partout. Mais le prix de l'essence qui vient chercher, évidemment, les livreurs qui souvent ont à utiliser leur propre voiture. On n'est pas dans le cas, par exemple, d'un Saint-Hubert où il y a des voitures qui sont données, prêtées. Il y a beaucoup de pizzerias qui y vont aux frais des livreurs. Donc, qui maintenant, il y en a qui prennent l'initiative, vont demander aux livreurs qui viennent quelle est leur voiture, combien ça va coûter, vont peut-être rembourser même une partie. Mais évidemment, ça s'enregistre par une perte d'argent quand même, et du côté des livreurs et du côté des pizzerias qui, des fois, ont pas le choix de demander aux services de livraison comme Uber Eats, DoorDash et autres qui, eux, malheureusement, prennent quand même un gros pourcentage des profits.
Ouais, on vient avec ça. Alors, c'est peut-être le moment de vous déplacer ou de trouver une façon de livrer de la pizza ou d'aller la chercher ou d'en faire à la maison, malheureusement. Mais pour les pizzerias, ça doit être quand même un autre casse-tête qui s'annonce, parce que si on n'est pas capable de faire ça cet été alors qu'il y a beaucoup de livraisons normalement, on va avoir de la misère. Sinon, on regarde ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Il y a 800 combattants de l'usine d'Azovstal qui se seraient rendus selon Moscou. On continue de suivre ce qui se passe à Mariupol, là, mais on va voir à quel point il reste des gens à l'intérieur de cette usine-là. On nous dit que les derniers ou quelques combattants pourraient rester, mais la plupart se sont rendus. Selon le renseignement britannique, par contre, en Russie, ça ne va pas très bien. Vladimir Poutine aurait renvoyé un de ses proches conseillers en sécurité militaire pour l'échec en Ukraine. Ce qui retient l'attention aussi au Canada, c'est la fermeture du bureau de CBC Radio-Canada à Moscou, qui a été fermé par le Kremlin en représailles à la fin de la diffusion ici de la chaîne de télévision Russia Today, là, ART, et aussi de la diffusion de Sputnik. Sinon, on a parlé un peu du climat hier. Là, on a eu en dernière heure les chiffres de l'Organisation mondiale météorologique sur les indicateurs clés du changement climatique, température, les gaz à effet de serre, niveau de la mer, acidification des eaux de la mer aussi, qui étaient à leur plus haut niveau en 2021. On a atteint des nouveaux records, mais là, on apprend qu'au Canada, il y a 12 bombes carbone qui pourraient faire échouer tous les efforts de lutte contre les changements climatiques. Ça, c'est selon une étude d'experts publiée dans la revue Energy Policy. On parle de projets pétroliers, de projets de charbon aussi. Il y en a 12 au Canada, mais au total, partout dans le monde, il y en a 425, la majorité en Chine. Du côté du Canada, c'est le projet Montney Play en Colombie-Britannique qui est le plus polluant. Là, on parle de 13 gigatonnes, donc 13 milliards de tonnes de GES. Sinon, hier, les apiculteurs, apicultrices, donc les producteurs d'abeilles ont réclamé de l'aide du gouvernement provincial. 12 millions de dollars, disent-ils. Ça va les aider à passer au travers, à sauver leur colonie, mais on voit en ce moment des pertes qui sont majeures. On en parlait il y a quelques semaines avec les producteurs de bleuets, mais pour tous les producteurs de fruits et légumes qui ont besoin de pollinisateurs, les abeilles sont essentielles. Puis on a perdu à peu près, là, cette année, 60 % des colonies d'abeilles cet hiver. Énorme comme perte. Ça va coûter cher à les rebâtir, ça va coûter cher à aller en acheter d'autres. On est capable d'en acheter suffisamment. Donc, c'est pour ça que le 12 millions de dollars serait nécessaire pour les apiculteurs. Sinon, sondage ce matin dans le Journal de Montréal. Je présume qu'on va en parler un peu plus tard, encore une fois, à l'émission. 60% des Québécois qui aimeraient que le gouvernement fédéral empêche les demandeurs d'asile d'utiliser le chemin Roxham. On parle aussi des seuils d'immigration. Il y a 45% des Québécois qui aimeraient qu'on garde les seuils d'immigration actuels. 21% qui veulent les réduire. 23% qui veulent les augmenter. Par contre, on est peut-être un petit peu plus ouvert à accueillir davantage d'immigrants s'ils ont de l'expérience en français. Là, ce chiffre-là augmente à 31% des gens qui veulent augmenter les seuils si les immigrants ont de l'expérience en français. Faut comprendre que selon le sondage, ce sont les immigrants qui ne parlent pas français qui menacent le plus la langue selon eux. Ce n'est pas l'attractivité culturelle de l'anglais. Ce ne sont pas les Québécois francophones qui se tournent vers l'anglais. Ce sont les immigrants qui ne le parlent pas. Là, faut quand même le dire et le souligner, ce sont un sondage léger qui a été commandé par la CAQ. Ça tombe-tu bien qu'on l'ait coulé à nos collègues du bureau parlementaire? C'est pas mal en lien avec les politiques de la CAQ dans ce dossier. Sinon, du côté de l'Alberta, Jason Kenney a annoncé son départ. Il a gagné son vote de confiance, mais vraiment sur la peau des dents. Donc, pas suffisamment d'appui au sein de son parti pour pouvoir rester comme chef du parti du parti conservateur. Là-bas, là, c'est pas le parti officiellement conservateur. C'est une nouvelle forme de parti conservateur uni. Il va aussi quitter son poste de premier ministre. Mais disons qu'Alex, hier, c'est pas ça qui a le fait plus jaser en Alberta. Là.
Non, vraiment pas, parce que c'était la bataille de l'Alberta hier qui débutait dans la Ligue nationale de hockey, là, les Flames de Calgary contre les Oilers d'Edmonton. Et la partie a commencé là, vraiment sur les chapeaux de roue. Dans les trois premiers tirs, il y a eu deux buts de la part des Flames, le gardien des Oilers, Mike Smith, qui a été atroce en début de partie. On se disait, là, moi j'ai écouté juste un petit bout au début, c'était déjà 3-0, là, la partie venait de commencer en quelques minutes. On pensait que c'était terminé, mais non, une partie offensive de fou. Ça a remonté là, en début de troisième période, c'était rendu 6-6. Connor McDavid, là, le génie des Oilers, qui a marqué 4 points encore dans cette partie-là, mais ça a fini 9-6 pour les Flames, pour les locaux. Donc, un premier duel là, complètement endiablé. Et à l'opposé, dans la Ligue nationale, l'autre duel, c'est les Hurricanes contre les Rangers. Et c'est complètement à l'opposé, je le dis, duel de gardien. Ça a fini 2-1 en prolongation en faveur des Hurricanes.
Bon, peux-tu me parler de deux histoires judiciaires un peu... dire loufoque?
Ouais, deux histoires loufoques. Je pense que c'est le terme qu'il faut utiliser. Le premier, un procès là, dans l'Oregon qui s'est ouvert en avril, mais qui commence à attirer pas mal l'attention. Nancy Crampton Brophy, qui est une dame de 71 ans, une autrice qu'on accuse d'avoir tué son mari. Pourquoi ça retient l'attention? C'est que cette femme-là, cette autrice-là, c'est une écrivaine qui est spécialisée en romans sentimentaux. Hein? Des romans qui ont des titres comme « L'enfer au cœur » ou encore « Le mauvais mari ». Mais elle a également écrit récemment un essai qui s'appelle « How to murder your husband ah. »,« Comment assassiner votre mari », qui décrit en gros comment tuer son mari sans se faire attraper. Et là, coïncidence, son mari meurt, les caméras de sécurité devant l'école de cuisine où son mari travaillait ont capté quelques minutes avant des images de sa voiture à elle. Elle dit souffrir d'amnésie post-traumatique soudainement, se souvient pas d'avoir été là. Elle a commandé un canon de pistolet quelques mois avant sur eBay qui mystérieusement a disparu. Elle dit qu'elle voulait se procurer une arme dans le but de s'inventer des histoires, s'inspirer pour ses romans. Mais disons là que c'est complètement fou. Une dame qui écrit comment tuer son mari, qui soudainement voit son mari mourir, c'est assez spécial. L'autre procès, lui, est en Italie. Fait 4 ans que ça dure, cette saga judiciaire-là. J'avoue jamais en avoir entendu parler. Il y a des nouveaux détails qui viennent s'immiscer dans l'histoire. C'est une femme, une journaliste, lectrice de nouvelles, qui poursuit ses employeurs parce qu'ils l'auraient forcée à partager une pièce et à travailler avec un collègue qui, dit-on, est un péteur et roteur en série. Je ne ris pas, un flatulent
en série. Quelqu'un qui sait bien vivre.
Quelqu'un qui sait bien vivre, mais c'est pas, ça peut sembler rigolo au premier abord, mais on dit que c'est vraiment dans le cadre d'une campagne d'intimidation là, menée par ses collègues, par ses employeurs, qui l'auraient forcé, dans le cadre d'une rivalité professionnelle, à travailler avec cet homme-là. Mais là, les détails qui viennent d'entrer, parce que l'histoire semblait être délaissée, on semblait peut-être vouloir abandonner le procès. Et là, le procureur a demandé des compléments d'enquête parce que semble-t-il que le flatulent en série aurait des liens avec un parrain de la mafia 'Ndrangheta en Italie. Donc, peut-être que le crime organisé serait mêlé à tout ça. Bref, c'est une énorme saga judiciaire qui passionne les Italiens et même passionne les gens d'ici.
Bon, tant mieux pour eux.
Voilà.
Bon, sinon, on va surveiller aujourd'hui Jeanne Kamel qui va parler finalement de son rapport de coroner sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. Grosse journée, Alexandre. Bonne journée.
Salut. Salut.